Mise au point. Le magazine des politiques publiques.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter Kevin Jernier, qui est membre de la Transparency International France, où il s'occupe notamment du secteur public local. Avec un regard extérieur à l'administration, il parle de l'évolution de la corruption dans le secteur public local, un regard extérieur et critique. Écoutons-le si vous voulez bien.
À la fin des années 80, début des années 90, on a des affaires de corruption locale en France qui sont systémiques et qui vont toucher tous les partis politiques, à droite comme à gauche. Donc on peut citer l'affaire Urba, l'affaire des marchés publics d'Île-de-France, l'affaire Carignon, l'ancien maire de Grenoble qui a été condamné, avec des schémas à chaque fois récurrents d'octroi de marchés publics en échange d'un financement par les entreprises de partis politiques. Et au passage, parfois un peu d'enrichissement personnel parce qu'on peut se servir, pourquoi pas. Donc dans les collectivités territoriales, dont les pouvoirs viennent d'être renforcés au tout début des années 80 par les grandes lois de décentralisation, on a beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent qui circule, et pourtant des mécanismes de prévention de la corruption qui sont inexistants. Donc ça peut expliquer ces affaires de corruption systémique. Alors que font les pouvoirs publics pour résoudre ce problème de corruption locale? D'abord, ils vont y répondre avec la loi Sapin 1 en 1993, qui va créer plus de transparence dans les comptes des partis politiques et également sur les délégations de services publics. Et surtout, on a l'interdiction qui est adoptée en 1995 de dons par des personnes morales, donc des entreprises par exemple, pour les partis politiques. Ça va quand même assainir grandement la situation au niveau de la corruption locale. C'est un progrès immense, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant puisqu'il va rester de la corruption plus diffuse, qui est plus dure à traiter avec ces mesures. Donc il s'agit davantage d'affaires de conflits d'intérêts, des choses qui ne sont pas nécessairement illégales, mais qui peuvent dégénérer en délit pénal. Et c'est là que l'approche préventive elle prend tout son sens puisqu'il s'agit de couper à la racine ces problèmes éthiques avant qu'ils ne se transforment en corruption systémique. C'est d'ailleurs à cette période, dans les années 90, que mon ONG, Transparency International, a été créée, donc en 1993 d'abord en Allemagne, par un ancien cadre de la Banque mondiale. Le constat à l'époque, il est le suivant, on considère que la corruption, ce n'est pas un problème politique systémique, c'est juste un problème personnel et elle n'a pas sa place sur l'agenda politique. Pourtant, ce que va constater Peter Hagen, c'est qu'on a des problèmes massifs, notamment dans l'aide au développement qui est accordée des pays du Nord aux pays du Sud, où souvent à cause de la corruption, notamment locale dans ces pays du Sud, on a une grande partie de l'aide au développement qui est détournée. Il ne faut pas non plus croire que les pays du Nord sont exempts de cette corruption locale. D'ailleurs, il ne faudrait justement pas que les mesures de prévention de la corruption soient déséquilibrées. C'est pour ça qu'une section française de Transparency est créée dans les années 90, en 97, et va plaider ensuite, durant les années 2000, pour davantage de mesures de prévention afin de compléter l'approche répressive. La prévention, ça passe notamment par la transparence, qui est un outil essentiel de prévention des risques, mais également la prévention, ça passe par la promotion du droit souple et de la déontologie, et de l'éthique publique locale, qui vont compléter finalement le droit dur pénal, répressif, un peu rigide, et pas toujours adapté pour les faits compliqués de conflit d'intérêts. Ça patine un peu, et dans les années 2010, donc en 2013 plus précisément, on a l'affaire Cahuzac, le séisme Cahuzac, qui va vraiment créer un électrochoc majeur sur la scène politique nationale, et qui va contribuer à la création de la première loi de transparence d'une très longue série depuis 10 ans. Donc d'abord, la première loi de transparence, elle va créer la haute autorité pour la transparence de la vie publique et les premières obligations de déclaration d'intérêts et de patrimoine pour les élus locaux. Ensuite, en 2014, on a l'interdiction du cumul des mandats, très important, puisqu'en fait, on le sait, le cumul des mandats, c'est une source de corruption puisque ça permet de cumuler, de concentrer les pouvoirs et ça crée toujours du clientélisme et sur le long terme, plus de chances d'avoir des affaires de corruption. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi la loi Le Branchu en 2016, qui va rendre obligatoire la fonction de référent déontologue pour les agents publics locaux. La loi Sapin 2, voilà, énorme morceau, surtout pour l'Agence française anticorruption, puisqu'elle va créer l'Agence française anticorruption, ainsi que les mécanismes de protection des lanceurs d'alerte au niveau local, et très très important, la possibilité non obligatoire, malheureusement, Transparency le regrette fortement, de mettre en place des plans de prévention de la corruption dans le secteur public local. Il faut bien comprendre hein, d'où vient cette loi Sapin 2. C'était d'abord une volonté de lutter contre la corruption dans le secteur privé. Mais incidemment, il y a eu aussi cette idée d'aligner le secteur public local français sur les exigences du droit européen, puisque les autorités publiques locales, notamment les régions, sont gestionnaires des fonds publics européens. Donc elles ont des exigences assez énormes de prévention des risques de corruption auprès de la Commission européenne. Et il s'agissait finalement d'étendre ces exigences à tous les fonds publics locaux qui sont quand même assez colossaux. Aujourd'hui, il faut savoir, on est dans une phase de digestion de toutes ces nouvelles normes qui sont tombées ces 10 dernières années. Elles se diffusent, mais trop lentement. Il ne faudrait pas aller plus vite que la musique. Donc il faut laisser le temps aux agents publics locaux et aux élus locaux de digérer toutes ces normes. Et peut-être éventuellement donner un dernier coup d'accélérateur en rendant obligatoire les plans de prévention de la corruption dans le secteur public local à partir d'un seuil qu'il faut négocier, peut-être 50 000 habitants, puisqu'il ne faut pas non plus imposer des mesures trop fortes pour des petites collectivités qui n'ont pas les moyens. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on n'a évidemment plus besoin d'un énorme chamboulement comme dans les années 2010. On a juste besoin d'ajustements à la marge. Ce qu'on pense à Transparency, c'est que, en tout cas ce qu'on espère, c'est que 2020-2026, ce sera le mandat de la maturité, de la mise en place des nouvelles dispositions de prévention de la corruption, et 2026-2032, pour voir à plus long terme, on pourra, en tout cas on l'espère, voir toutes ces mesures un peu abscons porter leurs fruits dans la perception par le public de la corruption des élus et des agents publics locaux. Donc il ne faut surtout pas qu'on remette en cause, qu'on bouleverse des institutions de contrôle et de prévention comme l'AFA, le PNF, la HATVP, qui ont fait leurs preuves, mais qui sont encore jeunes et qui doivent être stabilisés, et surtout auxquels on doit attribuer des moyens humains et financiers adéquats pour mener leur mission. Et surtout, point très essentiel pour une ONG comme Transparency, et qu'on a tendance à oublier, c'est le rôle des contre-pouvoirs citoyens au niveau local. Je pense notamment aux médias locaux d'investigation qui font un travail essentiel de lutte contre la corruption, les citoyens, hein, tout court, avec les associations anticorruption et l'opposition politique locale. Ces acteurs-là aussi, hein, ils doivent être confortés, on ne doit pas les attaquer, et ils doivent pouvoir jouer pleinement leur rôle. C'est une question assez complexe, puisque la corruption, c'est un phénomène qui est par essence caché. Transparency International France est très connu dans le monde pour son indice de perception de la corruption, qui est un peu son produit d'appel, qui permet d'établir des comparaisons entre les pays, mais pas à l'intérieur même des pays. C'est un indice de perception qui est vraiment seulement centré sur le secteur public et qui met de côté aussi le secteur privé, donc il faut bien l'avoir en tête. Et qui ne va pas non plus mesurer objectivement les cadres réglementaires ou législatifs de régulation. Donc l'indice de perception de la corruption, l'IPC comme on l'appelle par acronyme, c'est un agrégat qui est assez large, hein, qui vient de 13 sources de données, 13 jeux de données, qui proviennent de 12 institutions différentes. C'est difficile d'isoler les quelques indicateurs qui relèvent du niveau local, mais on a quelques jeux de données, comme celui de la Banque mondiale ou de la Freedom House, qui posent des questions sur la perception par les citoyens de la corruption au niveau local. Ça peut être, par exemple, pensez-vous que les pouvoirs locaux poursuivent des intérêts privés ? Ou pensez-vous que les mesures de transparence sont suffisantes au niveau local dans votre pays ? Alors, cet indicateur, pour la France, en 2021, il indique une 22e position au niveau mondial avec un score de 71 sur 100. Au niveau mondial, c'est très satisfaisant. Hein, 22e sur 180 pays mesurés, c'est le peloton de tête. Mais il faut comparer avec ce qui est comparable, c'est-à-dire plutôt les voisins européens. Et là, la situation elle est quand même moins satisfaisante. Hein. On est dans une situation intermédiaire entre les pays du Sud. Je pense à l'Espagne, l'Italie, qui a toujours une corruption endémique hein, dans le sud de l'Italie, avec des proximités assez fortes avec la mafia notamment. La Grèce, où l'État il est très fragile et il a du mal à lutter contre une corruption qui est parfois endémique. Et aussi des pays assez en retard sur le plan de la lutte contre la corruption au niveau local, donc pays plutôt d'Europe de l'Est. En face de ça, devant la France, on a les pays du Nord, dont l'incontournable Scandinavie, qui ont des taux de perception de la corruption qui sont extrêmement faibles par leurs citoyens. Il y a quand même deux indices qui ne sont pas de Transparency International France, mais qui permettent de faire une comparaison intranationale. Il y a une étude de la Commission européenne de 2020 sur la qualité de vie dans différentes villes d'Europe qui a été menée et qui s'est notamment portée sur les villes en France de Marseille, Paris, Strasbourg, Rennes, Bordeaux et Lille. Et là, c'est intéressant parce qu'on trouve au sein de la France cette limite un peu nord-sud. Il y a notamment une question qui a été posée aux répondants qui est « Pensez-vous que l'administration locale est corrompue ?» avec une moyenne de 49% de oui au niveau national, on a quand même seulement 39% de oui à Marseille. Donc ça confirme un peu un cliché hein, qui est un peu dangereux, mais qui semble malheureusement corrélé par certains procès. Notamment une énorme affaire là en ce moment de poursuite d'un ancien fonctionnaire territorial des Bouches-du-Rhône qui aurait touché plus de 500 000 euros de pots de vin en échange de l'octroi de marché public. Bon, il faut faire attention avec ces clichés, ils ont tendance à s'auto-alimenter, mais il y a quand même en France une distinction nord-sud qu'on peut opérer prudemment. Autre indice de comparaison, c'est la cartographie des affaires de corruption relevée dans la presse locale que fait Transparency France. C'est une méthodologie qui a atteint ses limites, mais on a suffisamment de données pour pouvoir comparer solidement aujourd'hui. Donc si on ramène le nombre d'affaires qui sont relevées dans la presse locale par rapport au PIB régional, on voit quand même de fortes disparités avec certains territoires. On a une moyenne nationale qui est à 17, et des territoires comme la Corse, Mayotte, la Polynésie qui vont être à respectivement 54, 90, 67 et 23 à La Réunion. Là aussi, ça semble correspondre à une tendance qu'on observe, hein, certains clichés d'une corruption locale qui est plus endémique dans les territoires d'outre-mer. Ça peut s'expliquer par une multitude de facteurs, un clientélisme plus ancré, un rapport plus distant avec les normes étatiques, et aussi un développement économique plus faible, hein, parce que le niveau de corruption il est toujours étroitement lié au développement économique. On cite souvent les pays scandinaves en exemple, puisqu'effectivement, les taux de perception de la corruption locale là-bas sont extrêmement faibles. Mais pourtant, il faut quand même soulever que la situation elle est assez paradoxale dans ces pays, puisqu'ils ont des normes de prévention de la corruption qui sont beaucoup moins poussées qu'en France. Ils se reposent davantage en fait sur une culture de la transparence et un droit d'accès aux documents administratifs et aux jeux de données qui est beaucoup plus avancé qu'en France. Ça permet en fait aux contre-pouvoirs citoyens, comme la presse d'investigation, l'opposition, de faire leur travail, d'aller chercher les affaires, de les publier, de les rendre visibles et de pousser parfois à la démission des responsables politiques mis en cause. Puisque dans ces pays, en fait, la culture de la redevabilité et de la responsabilité politique, elle est quand même beaucoup plus forte qu'en France.
Mise au point. Le magazine des politiques publiques.